Huitième commandement de Dieu, faux témoignage ne dira ni mentira aucunement. En général, on dit tu ne mentiras pas dans les commandements de Dieu. Alors ce commandement nous défend trois choses, le faux témoignage, le mensonge, la calomnie, la médisance, cinq choses, et le jugement téméraire. Alors voyons ces différents points. Qu'est-ce que le faux témoignage? On fait un faux témoignage lorsqu'on est appelé en justice comme témoin et qu'on ne dit pas la vérité. C'est quand même fort. On est là pour témoigner, pour accuser ou pour défendre et on ne dit pas la vérité. Ce faux témoignage est toujours un péché mortel car celui qui le rend commet un parjure puisqu'il viole le serment qu'il a fait de dire la vérité. Souvent aussi, il commet une injustice en faisant condamner un innocent, malheureusement. On le voit pour notre Seigneur. Celui qui a rendu un faux témoignage est obligé de réparer tout le dommage dont il est cause. On pêche aussi d'une manière analogue au faux témoignage, par exemple en produisant de faux témoins ou de faux titres, en faisant condamner ou en condamnant celui qu'on sait innocent. On lit dans l'évangile de saint Marc au sujet de notre Seigneur pendant sa passion. Or, les princes des prêtres et tout le conseil cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Alors, comme ils n'avaient aucun témoignage qui pouvait aller dans ce sens-là, ils ont fait des faux témoignages. Ils n'en trouvaient point, dit l'évangile, car plusieurs déposaient faussement contre lui, mais leur déposition ne s'accordait pas. Quelques-uns, se levant, portaient contre lui ce faux témoignage, disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en trois jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera point fait de main d'homme. » Mais leur témoignage ne s'accordait point là-dessus. C'est vrai que notre Seigneur a dit « Détruisez ce temple fait de main d'homme, et moi, en trois jours, je le rebâtirai. » Jésus parlait du temple de son corps. Jésus ne disait pas de mensonge. Voilà pour le faux témoignage. Le mensonge. Alors, le mensonge, c'est plus courant. Mentir, qu'est-ce que c'est? Mentir, c'est dire une chose qu'on ne croit pas vraie avec l'intention de tromper. Pas forcément avec l'intention de faire du mal, avec l'intention de tromper. C'est ainsi qu'il y a trois sortes de mensonges. Le mensonge joyeux, donc je n'ai pas l'intention de faire du mal. Le mensonge officieux et le mensonge pernicieux. Le mensonge joyeux est celui que l'on fait par plaisanterie, pour s'amuser, pour amuser les autres. Vous allez dire, on n'a pas le droit de faire de blagues alors. La blague va plus vite. Quand on fait une blague, souvent, on la fait en riant. Donc, la personne à qui on s'adresse sait bien qu'on ne dit pas la vérité, qu'on essaye de la rouler dans la farine. Mais là, un mensonge joyeux qui pourrait durer longtemps, par exemple, je viendrai te chercher à telle heure et on ira faire une promenade à la montagne. Bon, la personne est contente, elle attend, et la promesse n'est pas réalisée. Pourtant, l'autre pensait faire un mensonge joyeux. Donc ça, c'est vraiment un mensonge. On a trompé. Le mensonge officieux, lui, est celui que l'on fait pour son utilité ou pour celle du prochain. Alors, puisque j'ai trouvé un bénéfice, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas me permettre de mentir? Puisque je défends mon prochain, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas me permettre de mentir? Eh bien non, nous n'avons pas le droit. Et troisième cas de mensonge, le mensonge pernicieux, est celui que l'on fait pour nuire au prochain. Bien entendu, c'est le plus grave, c'est le plus coupable. Et il serait même péché mortel s'il causait au prochain un dommage considérable, soit dans ses biens, soit dans sa réputation. Donc il n'est jamais permis de mentir, même pour s'excuser ou pour rendre service à quelqu'un. Le mensonge est toujours un péché, parce qu'étant opposé à la vérité, il fait injure à Dieu, qui est la vérité même. Alors, on peut ruser, ne pas mentir, ne pas trahir ne pas dire noir quand c'est blanc, mais on peut biaiser un peu. On peut faire restriction mentale quand c'est un état de guerre, par exemple. Un saint, je ne sais plus lequel est-ce, qui était poursuivi. Et les personnes qui le cherchaient s'adressent à lui. Ils le rencontrent. Vous n'avez pas vu un tel? Je ne sais plus qui est-ce. Saint Jean Chrysostome, peut-être. Je ne sais plus. Ah, il dit, si, je l'ai vu. Je sais qu'il n'est pas loin de vous. Alors, les autres se sont mis à courir, vite. Et ils étaient vraiment pas loin Il était vraiment pas loin d'eux, puisque c'est lui qui leur parlait. Vous voyez, on peut faire des choses comme ça. Mais ce n'était pas un mensonge. Là, il faut être rusé aussi. Il faut trouver les bons mots, faut trouver les bonnes idées. La calomnie est un péché qui peut être facilement commis, malheureusement, par des personnes qui ne seraient pas très spirituelles, pas très charitables, ou même pas du tout charitables. Parce que calomnier, c'est imputer à quelqu'un une faute dont il est innocent ou un défaut qu'il n'a pas. On raconte, et ce n'est pas vrai. Et ça arrive à des personnes qui peut-être ne s'en rendent même pas compte, mais elles ont tellement l'habitude de parler d'apporter des arguments pour se faire bien voir ou qu'elles finissent par ne pas dire la vérité et nuire gravement au prochain. Donc c'est nuire à la charité. Donc c'est vraiment un péché quand même caractéristique. La médisance, elle, se fait beaucoup plus facilement. Parce que médire, c'est découvrir sans nécessité les défauts ou les fautes du prochain, ou bien rabaisser ses bonnes qualités. On dit bien découvrir sans nécessité les défauts du prochain. Des professeurs qui parlent de leurs élèves vont parler de leurs défauts, mais c'est pour faire avancer les choses, pour amener une amélioration. Alors que là, la médisance, je parle mal de mon prochain parce que voilà, tu sais pas ce qu'il a fait, voilà, ça va pas du tout dans la famille, mais il n'y a aucune raison de le dire à la personne qui m'écoute, elle ne pourra rien changer, et donc ça, c'est de la médisance. Alors quand il est nécessaire de révéler les défauts ou les fautes du prochain, on ne doit les faire connaître qu'à ceux qui peuvent y remédier. Parents, aux prêtres, aux professeurs, ou à ceux qui en souffriraient quelques dommages s'ils n'en étaient pas avertis. Si nous avons entendu qu'une personne a l'intention de se venger et de venir mettre le feu à la maison de son voisin, on a entendu cette conversation, ben on va aller dire tout de suite au voisin, nous n'avons pas fait de médisance, nous avons dit la vérité pour protéger le prochain. Et quoique la chose qu'on rapporte soit vraie, il y a péché à la dire, parce que la charité nous défend d'ôter sans raison au prochain la bonne réputation dont il jouit. Faire très attention dans les conversations. On aime parler du prochain. Dans l'Imitation, il y a un verset qui dit que l'on serait heureux si l'on ne parlait jamais. Qu'il est bon de ne jamais parler du prochain, sinon en bien. Mais regardez bien, en général, c'est la critique, c'est le mauvais du prochain qui ressortent plus que les qualités et les bonnes actions qu'il a pu faire. Alors veillons à édifier en parlant bien du prochain. Et la médisance peut être un péché mortel. Car saint Paul a dit que les médisants n'entreront point dans le royaume des cieux. Bien sûr, si on va dire « Oh, mon voisin, il se met souvent en colère, je n'ai pas besoin de dire à telle personne. » Là, bon, c'est la médisance, mais ça ne va pas jusqu'au péché mortel. Mais dire qu'une personne a vraiment des mœurs dépravées, là, ça peut devenir un péché mortel. Ça peut être un péché mortel, parce que c'est vraiment l'accusé du péché mortel, justement. Il y a des circonstances, cependant, qui augmentent la gravité de ces deux péchés. Par exemple, lorsqu'on dit du mal de ses supérieurs, des personnes consacrées à Dieu, de beaucoup de personnes à la fois, ou devant un grand nombre de personnes. C'est plus grave que si je parle seulement à une personne. Il n'est pas permis d'écouter avec plaisir la médisance ou la calomnie, car c'est participer au péché des médisants et des calomniateurs. Donc on s'en confesse, j'ai écouté une conversation qui médisait sur le prochain. Alors, on peut assister à la conversation, si on a les bonnes idées, le bon esprit pour redresser la conversation, c'est très bien. Soit on s'en va, si on voit que c'est inutile, soit on dit un mot, bon allez, ça suffit, hein, la personne ne serait pas très contente de nous entendre parler comme ça d'elle, et on veille à réparer la mauvaise réputation qui a été donnée sur le prochain. On essaye de le réhabiliter en quelque sorte, en parlant de ses qualités, de ce qu'il a fait de bien. Et bien sûr, ce sont des péchés qu'il faut accuser en confession. Les péchés de la langue sont fréquents, les péchés contre la charité sont fréquents. Bon, on vous dit là, quand on entend médire, on doit, si on le peut, empêcher la médisance, comme je vous disais. Si on ne le peut pas, on doit détourner la conversation. Donc peut-être assez fin, assez habile, mais il faut demander au Saint-Esprit. Ou du moins montrer par son silence qu'on ne prend pas plaisir à la médisance. On se tait, puis on porte pas attention à la conversation, on fait autre chose, voilà. Pour que les personnes se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Il est défendu en général de rapporter à quelqu'un le mal qu'on a entendu dire de lui. Ah, tu sens, hein, il t'a défoncé, hein, celui-là. Oh là là! Il a mal parlé de toi. Non, on le dit pas, parce que ça fait de la peine à la personne. Par contre, aller dire à la personne qui aimait dire, vous pourriez peut-être faire attention, mieux parler, ça c'est permis. Mais on ne va pas le dire à la personne qui est victime. Ça la fait souffrir, ça enlèvera la paix qu'elle pourrait avoir, qu'elle a j'espère, et ça mettra du trouble entre ces personnes-là. La Sainte Écriture dit que Dieu déteste ceux qui, par leur rapport, sèment la division entre les frères, parce que c'est certain que la division va arriver. Et celui qui a fait tort au prochain par calomnie ou par médisance est obligé de réparer autant qu'il le peut le dommage qu'il lui a causé. Alors si j'ai mal parlé de mon prochain à telle personne, eh bien je me repens, je me confesse et je vais voir la personne à qui j'ai parlé, lui disant excusez-moi, c'est pas bien ce que j'ai fait, je n'aurais pas dû parler comme ça, la prochaine fois faites-moi la remarque, mais enfin ne retenez pas ce que je vous ai dit, c'est vraiment pas bien, enfin voilà, on va battre sa coulpe. On doit réparer le tort fait au prochain par la calomnie en déclarant que le mal qu'on a dit de lui est faux, si c'est de la calomnie. Si c'est de la médisance, eh bien on fait tout ce que l'on peut pour rétablir la réputation du prochain, en excusant ses torts ou en faisant valoir ses bonnes qualités. C'est très important, il faut bien s'examiner sur ses paroles et sur ses pensées aussi, parce que les paroles viennent des pensées. Si l'on a entretenu des pensées non charitables sur le prochain, eh bien, elles risquent fort de ressortir sur nos lèvres. Alors, prions le Sacré-Cœur de Jésus, doux et humble, qui nous donne part à sa douceur et à son humilité pour supporter le prochain. Et puis, pensons que Jésus s'est gardé en silence quand on l'accusait faussement pendant sa passion. Et ce que nous endurons des mauvaises langues n'est rien par rapport à ce que Jésus a enduré, bien entendu. Il est bon de se voir face à Jésus, calomnié, médit, pour voir un petit peu où est-ce que nous en sommes. Nous sommes bien des grands égoïstes. Dès qu'il y a un petit quelque chose qui va salir notre réputation, là, c'est l'horreur. Et bon, ça se comprend, hein. Mais comparons-nous à notre Seigneur et voyons que nous qui méritons d'être rabaissés, eh bien, nous n'avons qu'à accepter. Et on acceptera d'autant plus que l'on vivra, que l'on pensera à toutes ces choses en union avec le Sacré-Cœur de Jésus.